Hier, il y avait deux absents.
Moi.
Il y avait deux absents hier.
Jean
Rougefort. Non, mais là, moi, j'étais prévenu. Et puis, aujourd'hui, donc, tout le monde est là, c'est parfait. Alors, quand vous êtes absent, vous rattrapez le cours avec les notes d'un autre. Comment vous faites?
Moi, j'en revenais
là. Non, je dis ça, c'est par rapport à l'examen. Parce que l'examen... Alors, j'aime mieux vous avertir, parce que c'est dans 10 jours, donc c'est bientôt. Alors, l'examen comportera 3 questions. Une question qui portera sur le cours de la première semaine, une question qui portera sur le cours de la seconde semaine, et une troisième question sur le cours de la troisième semaine. Bon. Alors, d'autre part, comme j'aurai très peu de temps pour les corriger, je ne veux pas emporter vos copies en France, hein, et comme je serai obligé de corriger dans l'après-midi, je disposerai peu de temps. Alors, ce que je vous demanderai, c'est de ne pas... de dire les choses d'une façon très ramassée, très condensée, hein, n'allongez pas. Et alors, pour vous inciter, je ne dis pas ça pour vous opprimer, mais au contraire, pour vous forcer quand même, je dirais, si je me trouve devant quelque chose de trop long, eh bien, ma foi, je laisserai la copie ici. Oui. Alors, comme ça, ce sera très simple. Si un truc est trop long, je n'aurai pas le temps vraiment de le lire. Vous êtes quand même 15. Je ne peux pas saboter mon travail de correcteur, donc je peux aller vite. Mais enfin, en passant un quart d'heure sur chacune de vos copies, ça me fait 3h15. Or, comme il faudra que je quitte la maison au plus tard à 5h30, hein, pour l'aéroport, donc j'aurai tout juste le temps en passant un quart d'heure. Ce genre. Mais alors, si je me trouve devant quelque chose de trop long, alors je vous demande d'être bref. Sur votre brouillon, vous pouvez délayer autant que vous voulez. Mais alors, si ça vous aide pour vous exprimer. Mais après, vous condensez, vous ramassez. Parce que je dis toujours aux étudiants à Aix, mieux vaut une copie courte, hein, et bien pensée, claire, hein, plutôt que du délayage. Et moi, ce que il me nerve quelquefois, c'est qu'un étudiant se figure... qu'en mettant beaucoup de sauce, ça arrangera les affaires. Alors, ça peut être vrai pour certains plats cuisinés, mais pour les copies, non. Alors, soyez bref. J'aimerais, si vous voulez, que vous preniez à peu près une page, maximum une page et demie, pour répondre à une question. Mais non, une page. Une page pour une question, c'est rien, ça. Alors, comme ça, je me trouverai devant un maximum de 4 pages, quoi. Bon, alors, d'autre part, quand vous faites un examen ici, est-ce que le CT vous donne les copies?
Oui.
Il y a des copies prévues?
Oh non.
Ou bien...
Non, les feuilles blanches.
C'est les étudiants. Bon, mais alors, j'aimerais, parce que ça facilite beaucoup les choses, et ça évite les pertes dans certains cas. Entendez-vous entre vous pour avoir tous des feuilles de même format? Parce que si on n'a pas le même format, moi j'ai perdu comme ça des feuilles d'examen, c'est très embêtant. Il y a des feuilles qui sont petites, que le professeur qui soit peut ne pas voir, hein, ou tout. Tandis que quand toutes les feuilles ont le même format, il n'y a pas d'histoire, on peut avoir tout. Alors entendez-vous, prenez un format classique, oui, le format comme ça à peu près, oui, voilà. Hein, voilà. Voilà. Alors prenez ça, hein, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Alors n'oubliez pas aussi de mettre votre nom, votre prénom et votre nom. J'avais des étudiants comme ça qui me mettaient simplement Pierre ou Jean. Ici, vous êtes que 15, mais quand on se trouve devant 50aine de copies, alors on Pierre, il y en a que 3 ou 4, tout. Alors écrivez aussi lisiblement que vous pouvez. Mais enfin, là, vous êtes bien prévenus. Donc ce sera vendredi matin, non pas de cette semaine, vendredi en 8, hein, vendredi matin dans 10 jours. Et tenez compte, c'est pour vous que je dis ça, du fait que j'aurai peu de temps pour corriger, alors permettez-moi d'avoir des copies assez succinctes. J'aime mieux que vous me disiez les choses en peu de mots plutôt que de faire du délayage. Hein. Et puis, ma foi, tant pis, si par extraordinaire, j'espère que ce ne sera jamais le cas, vous ne pouvez pas répondre à une question, ben tant pis, vous répondez aux 2 autres. Hein, parce que comme les questions... seront cotés 7, 7, 6 ou autrement, mais je veux dire, ça dépend des questions. Si une question un peu plus difficile, je la noterai un peu majorée. Je ne peux pas diviser 20 en 3, mais parce que je dois compter sur... Non, heureusement, c'est sur 100, hein, et je ne peux pas diviser 100 en 3. Hein, c'est 33, oui, mais il reste un point de toute façon. Mais j'ai vu, on m'a passé la feuille, il faut mettre d'ailleurs non pas un chiffre exact sur 100, mais on a des lettres à mettre. Hein, monsieur Thomson m'a montré ça, il m'a remis la feuille, je l'ai mis sur mon bureau, là, chez M. Cohn. Donc, j'ai sur mon bureau la feuille, je vois. Alors, je coterai vos questions. Et alors, vous êtes tenu, comment ça marche ici? Quand on a la moyenne, ça va. Si on a un total, non, c'est des lettres. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Comment ça fonctionne?
Ça prend 50 pour passer, mais quand on passe sur le bord de la ligne, ça ne sera jamais bon si on décide de continuer nos études plus loin. Je veux dire, c'est 50 pour passer, là, pour avoir un crédit.
Oui, ça, oui. Non, mais là, j'espère quand même qu'aucun d'entre vous aura d'échec. Je ne crois pas que mon cours soit difficile, je ne crois pas que... je ne vais pas vous poser des questions traquenards. Au fond, mes questions viseront simplement à voir si vous avez bien compris mon cours. Ça ne veut pas dire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, ce n'est pas le point. Mais si vous avez bien compris le cours, et si je vois que vous avez réfléchi suffisamment en suivant le cours et après, hein, pour pouvoir répondre. Mais, vous savez, à Aix, j'ai plutôt la réputation d'être un professeur gentil. Je ne chercherai pas... Mais évidemment, si je me trouve devant quelque chose qui est nul, je ne peux quand même pas mettre... Je ne peux pas ajouter des points. Non, je suis quand même honnête. Je suis tenu quand même d'être honnête vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'éthique chrétienne. Donc, je serai honnête, mais je ne serai pas dur du tout. Non, je voudrais que vous abordiez cet examen avec tranquillité d'esprit. Voilà.
En plus, c'est une bonne note.
Comment ?
En plus, c'est une bonne note.
Bah. Alors nous prenons la sixième parole qui est très courte puisqu'en hébreu ça se dit lo tisara. Donc en deux syllabes vous pouvez énoncer ce commandement. Donc Exode 20-13 et Deutéronome 5-17 lo tisara qui signifie tu ne commettras pas de meurtre. En français, et c'est là un problème de traduction, on disait anciennement tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Mais cela crée des problèmes. Parce que quand en Israël on exécutait un criminel, on n'employait pas le verbe tuer. Et quand des soldats mouraient au combat, on ne disait pas simplement qu'ils étaient tués. Le verbe qui est employé ici signifie, et c'est pour ça qu'on a changé les anciennes traductions, tu ne commettras pas de meurtre. L'exécution capitale n'est pas un meurtre. Le fait, dans un combat, de mettre à mort un adversaire n'est pas un meurtre. Tout au moins, je le dis tout de suite, pour la Torah, vous avez des gens qui pensent et qui disent tuer quelqu'un dans un combat, c'est un meurtre. Ou bien qui disent on n'a pas le droit d'être pour la peine de mort, parce qu'en réalité, la peine de mort, c'est un meurtre. Tandis que dans la Torah, il n'en est pas ainsi. Et on le voit d'ailleurs très bien, puisque on voit dans la même Torah qui dit « tu ne commettras pas de meurtre », on voit Dieu prononçant des exécutions capitales et on voit des guerres menées par le peuple d'Israël. Donc, je crois que la traduction moderne, récente, « tu ne commettras pas de meurtre » est quand même plus précise, donc meilleure, que l'ancienne traduction « tu ne tueras pas ». Voilà donc un premier point sur le sens de la traduction de « lo tisara ». « Lo tisara »,« tu ne commettras pas de meurtre ». Il y a un lien, je vous l'ai déjà dit, d'un commandement à tous les autres commandements. D'ailleurs, c'est très curieux que les textes fondamentaux de la Sainte Écriture sont presque toujours des textes dans lesquels une partie du texte est en relation avec les autres parties. Je prends un exemple. au point de vue exercice spirituel, d'ailleurs, cela peut vous aider dans votre méditation personnelle. Comme chrétiens, nous avons reçu du Christ un modèle de prière, ça ne veut pas dire que ce doit être notre seule prière, mais un modèle de prière qui est le Notre Père. Or, par exemple, on peut très bien rapporter toutes les demandes du Notre Père à la première demande, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, on peut éclairer par « que ton nom soit sanctifié » toutes les autres demandes, que ton règne vienne, pour que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour que ton nom soit sanctifié. Et on peut continuer. Ne nous soumets pas à la tentation, pour que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, pour que ton nom soit... Bon, mais on peut prendre n'importe quelle autre demande et voir qu'on peut voir tout de notre Père à la lumière de cette autre demande. Hein? Par exemple, ne nous soumets pas à la tentation. Hein? Ça va éclairer que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ça va éclairer tout le reste. Si bien que, quand le chrétien médite, il a déjà, si vous comptez, comme il le faut, à mon sens, disant le Notre Père, il y a 7 demande, 3 qui se rapportent à Dieu, 4 qui se rapportent à nous, mais en un autre sens, toutes se rapportent à Dieu et toutes se rapportent à nous. Mais enfin, il y a 7 demandes, 3 et 4. Vous trouverez dans un numéro d'Ictus une étude que j'avais faite sur le sens symbolique des nombres, et en particulier avec le rapport de 3 avec 4, 3 étant le nombre du ciel et 4 étant le nombre de la terre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a déjà, de comprendre le Notre Père en mettant chaque demande à part. Bon, ça c'est la manière générale. Deuxième manière, on prend la première demande et on éclaire avec la première demande les 6 autres. Ensuite, troisième manière, on prend la seconde demande et avec la seconde demande on éclaire les 6 autres. Ça fait déjà, si je compte bien, puisqu'il y a 7 demandes, 8 manières de dire le Notre Père. Si bien que, déjà, on ne va pas dire le Notre Père toujours de la même façon. Parce que on accentuera une fois telle demande, une fois telle autre. Alors je dirais, il en est de même pour le décalogue. On peut très bien prendre n'importe quelle parole des 10 paroles et éclairer par cette parole les 9 autres. Mais enfin, je ne me lance pas dans un développement à ce sujet. Vous réfléchirez vous-même, vous êtes assez grand pour pouvoir, comme enfant de Dieu, vérifier vous-même la chose. Mais cette parole, tu ne commettras pas de meurtre, a un lien peut-être très particulier avec le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Parce que Dieu étant Dieu, est le seul qui a vraiment droit de vie et de mort. Il fait partie de la prérogative de Dieu que d'avoir droit de vie et de mort. Le droit de vie et de mort est un droit divin. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui ôte la vie. Et comme le dit le livre de Job, nous devons bénir Dieu aussi bien quand il donne que quand il ôte. Il est le maître de notre vie et de notre mort. Si bien que nul homme n'a sur un autre homme ce droit de vie et de mort. Et là, il y a une sorte de promesse et de protection placé par Dieu sur tout homme. Quand il y a une exécution capitale sur l'ordre des magistrats, sur l'ordre des autorités, ou quand il y a mise à mort au cours d'un combat sous l'ordre des autorités, les magistrats qui ont ordonné l'exécution capitale ou qui conduisent une juste guerre le font comme liturge de Dieu. Ils accomplissent ce que Dieu leur a conféré en leur donnant le jus gladii, c'est-à-dire le droit de glaive. C'est le terme classique en éthique et en droit, le jus gladii. Les juristes parlent du jus gladii, c'est le droit de glaive. Autrement dit, le droit de glaive, tel qu'il est indiqué dans Romains 13, et sur lequel nous reviendrons la semaine prochaine, c'est pour ça que je passe peut-être un peu vite aujourd'hui, nous verrons qu'au fond, c'est Dieu qui opère vengeance sur les malfaiteurs en se servant comme instrument des magistrats qui ont reçu de lui le droit de glaive. Bon. Mais en dehors d'une juste exécution capitale ou d'une juste guerre, car alors c'est Dieu qui agit, aucun homme n'a sur un autre homme droit de vie et de mort. D'ailleurs, le magistrat lui-même, en tant qu'homme, n'a pas ce droit. Il n'a ce droit que dans sa charge, que dans sa fonction. Mais comme personne privée, le magistrat n'a pas plus de droit de mettre quelqu'un à mort que n'importe quel autre citoyen. C'est seulement dans sa charge de magistrat qu'il a le droit d'énoncer la peine d'exécution capitale ou de déclarer une juste guerre. Donc, au fond, on peut dire que les magistrats, avec le jus gladii, n'agissent que comme serviteurs de Dieu. Ils agissent au nom de Dieu et non pas en leur nom personnel. Par exemple, David est roi. Eh bien, David n'avait absolument pas le droit de faire ce qu'il a fait lorsqu'il s'est débrouillé pour faire placer Uri, dont il convoitait la femme, au premier rang dans le combat afin qu'il soit tué et que David soit ainsi débarrassé du mari et puisse épouser la femme. Bathsheba ou Bathsheba. En français, généralement, on dit Bathsheba. En hébreu, c'est Bathsheba. Mais par contre, le même roi David avait droit de justice comme magistrat et avait donc le droit légitimement de condamner à mort ou d'ordonner une guerre. C'est un commandement d'ailleurs très difficile à commenter. Vous allez d'ailleurs être sans doute très déçus de mon commentaire. Pour une raison très simple, c'est que comme le dit Maillot, avec ce commandement-là, tout y passe. La justice, la peine de mort, la violence, les casseurs, la guerre, le totalitarisme, la responsabilité collective de la faim dans le monde, la pollution, le suicide, l'euthanasie, l'avortement, et même, dit en souriant Maillot, l'automobile. Alors, tout y passe. Et oui, l'automobile, parce que vous le savez, en France et dans beaucoup de pays, le plus grand nombre de gens qui sont tués, ça vient par la faute de l'automobile. Alors, je dirais, avec ce commandement, c'est fou. On pourrait même écrire un gros livre, sur ce seul commandement, sur ce seul sixième commandement. Alors, évidemment, il n'en est pas question. Nous sommes cependant, il faut le noter, dans une société où l'on confond violence et force. Et vous savez que les casseurs, pour prendre cette catégorie, les casseurs disent souvent, par la violence, nous ne faisons que répondre à la violence que nous fait la société, à la violence que nous fait l'État, à la violence qu'il nous fait la société dans laquelle nous nous trouvons, etc. Et alors, du moment qu'on serait dans une société bloquée, comme disent les casseurs, eh bien, on va débloquer, si j'ose dire, la société à coups d'explosifs. Et c'est pourquoi on a un développement qu'on n'a jamais vu dans l'histoire humaine, comme le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. En fait, on a connu en France, à la fin du XIXe siècle, à l'extrême fin du XIXe siècle, on a connu une vague d'anarchistes. Il y a eu Cassériot, qui a assassiné à Lyon, alors qu'il y était en visite, le président de la République, qui s'appelait à l'époque Sadi Carnot. Il y a eu le fameux Ravachol. Il y a eu ce qu'on a appelé la bande à Bono, qui était une bande d'anarchistes. Il y a un type qui est allé lancer une bombe dans la Chambre des députés. D'ailleurs, je crois que vous avez eu au Québec un caporal qui a fait quelque chose d'analogue. Enfin, moi, je me rappelle avoir lu ça dans la presse. Bon, donc, il y a une vague de terrorisme. Mon avion est parti de Paris avec une heure et quart de retard parce que maintenant, quand tous les bagages sont amenés dans l'avion, on fait une vérification des bagages un par un. Tout ça parce qu'il y a une association de terroristes arméniens qui a menacé de faire sauter dans ces prochains jours un avion d'Air France. Si jamais vous apprenez samedi matin que mon avion la semaine prochaine a sauté, vous saurez que c'est probablement à cause des Arméniens. Mais pour éviter ça, on fait une fouille des bagages. On vérifie. Et dès qu'il y a un bagage dont on peut penser qu'il n'est pas à l'un des passagers de l'avion, on appelle, parce que quelquefois il y a un nom, on appelle dans l'avion, c'est ce qu'on a fait dans mon avion, le nom de tel ou tel passager, parce qu'on craint qu'il y ait une étiquette qui ait été ajoutée. Le terrorisme, on est menacé par le terrorisme. C'est d'autant plus inadmissible en ce qui concerne le terrorisme arménien en France, c'est que la France est un des rares pays au monde, justement, qui, par rapport aux Arméniens, a toujours eu une attitude plutôt positive, et nous avons d'ailleurs une forte colonie arménienne en France, et il faut reconnaître que les Arméniens en France, qui sont d'ailleurs citoyens français pour la plupart, puisque les massacres des Arméniens par les Turcs remontent à plus de 50 ans, et que les Arméniens qui sont en France sont devenus citoyens français, mais enfin, ils restent quand même arméniens. Il y a des églises arméniennes évangéliques en France, et j'ai prêché à plusieurs reprises dans les églises. Eh bien, les Arméniens français ou vivant en France sont eux-mêmes les premiers horrifiés par ce terrorisme d'Arméniens qui viennent on ne sait pas trop d'où et qui sont au service d'on ne sait pas trop qui. Alors, on est dans une situation qui est assez angoissante, parce qu'il y a le terrorisme qui est étendu dans le monde entier. Vous ne le connaissez peut-être pas beaucoup au Canada, mais dites-vous que dans un pays comme la France, c'est très rare que s'il se passe un mois sans qu'il y ait des actes terroristes. On lance une bombe dans un drugstore, ou drugstore en France c'est maintenant devenu un endroit qui sert en même temps de café. On peut y boire des peut-être pas tellement des boissons alcoolisées, mais on peut y boire des chocolats, des cafés, tout ça. Et alors vraiment, ce sont quelquefois des gens parfaitement innocents et autres qui sont victimes de ce terrorisme. Alors on a ce développement de cette violence. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas de meurtre. Et puis alors, on parle aujourd'hui beaucoup, après avoir parlé longtemps de l'avortement, et alors en France, vous savez que maintenant c'est abominable, l'avortement peut se faire sans aucun motif, n'importe qui peut avorter, en tout cas jusqu'au quatrième mois de la grossesse. Bon. Alors ça, c'est fini en France. Je dirais, malheureusement, l'avortement est passé dans les lois, et on voit de n'importe quoi. Maintenant, il y a des gamines de 12 ans, même quelquefois 12, 13 ans, qui se font avorter. On est dans une confusion abominable, où n'importe qui peut coucher avec n'importe qui en se disant, il n'y a pas de problème, d'abord j'ai pris la pilule, et puis si jamais la pilule ça marchait pas, il y a l'avortement. Bref, on est dans une situation tragique. Mais maintenant, on vient à l'euthanasie. À l'euthanasie. Et là aussi, on se trouve devant une question en rapport avec ce commandement. Le chrétien doit être, d'ailleurs, je vous parle au sujet de toutes les questions soulevées par l'euthanasie, à la fois pour le respect de la vie, mais pas non plus pour l'idolâtrie de la survie. Vous savez que la mode, depuis quelques années, c'est de faire survivre à coup de moyens artificiels et pendant au prix de souffrances terribles, non pas tellement chez celui qui est le malade, mais pour sa famille, on fait durer. C'est terrible. Alors, on doit respecter la vie. On doit respecter la vie, mais on ne doit pas avoir pour cela l'idolâtrie de la survie. Et on se trouve devant une grande question. Le docteur Paul Tournier, vous avez sûrement entendu parler du docteur Paul Tournier, peut-être lu ses ouvrages, a essayé de rappeler cette vérité élémentaire que le médecin a pour vocation essentielle de défendre le faible. Mais en réalité, le fond de tout ça, c'est pas tellement le respect de la vie. Parce que justement, si on ne voit que le respect de la vie, on risque d'être induit dans des considérations qui peuvent amener à des erreurs. Vous savez que par exemple, dans la religion hindoue, il faut respecter la vie, pas tuer même une fourmi, ne pas tuer un moustique, la vie. On ne sait pas, à la limite, vous savez, il y a de la vie déjà chez le végétal. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faudra jamais cueillir une salade ou un fruit? Vous comprenez où se trouve le respect de la vie? Ça risque de devenir quelque chose de très vague. Il vaut beaucoup mieux dire respect de Dieu et de sa loi. Et c'est ça sur lequel nous devons nous battre. Comme chrétiens, nous devons non seulement nous efforcer d'obéir à la loi de Dieu, mais nous devons faire connaître la loi de Dieu. Jésus nous a dit dans son testament, avant son ascension, enseignez toutes les nations, observez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons le devoir de dire ça aux nations. Je le répète parce que c'est le texte qui dit ça. Nous devons nous tourner vers les peuples, nous devons publiquement faire connaître la loi de Dieu. Parce que, comme la loi de Dieu est dans certains cas un simple garde-fou, un simple frein, faire connaître la loi de Dieu retiendra peut-être quelqu'un. Ça ne fera pas. Jamais la loi de Dieu n'a fait devenir chrétien quelqu'un. Mais la loi de Dieu peut quand même servir de frein à quelqu'un qui, même s'il n'est pas croyant, même s'il n'est pas régénéré, se dira, on ne sait jamais, vous savez, nous devons faire connaître la loi de Dieu, enseigner aux nations, et enseigner surtout aux nations modernes, qui sont en proie à toutes les folies de la violence, du terrorisme, de l'avortement, de l'euthanasie, de toutes sortes de choses abominables, faire connaître la loi de Dieu. Et, je le répète, toute vie est déjà fondée, est fondée sur le premier commandement. C'est parce que Dieu est Dieu, c'est parce qu'il est le créateur de l'homme, c'est parce qu'il nous donne sa loi que nous ne devons pas connaître de meurtre. Je vais maintenant, ça c'était donc ce que j'appelle le premier niveau, mais je voudrais aborder maintenant ce que j'appellerais un second niveau. Sans tomber dans des scrupules outrés, on peut considérer que sont des formes de meurtre des choses que l'on n'appelle pas généralement meurtre. Je ne fais pas allusion ici à ce que dit Jésus dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il montre qu'il y a déjà meurtre dans un mouvement de colère et d'envie. Mais je veux parler d'autre chose. Par exemple, j'énumère la négligence de la santé. Et ceci, évidemment, nous amène d'abord à une considération de notre propre santé. Le chrétien est appelé par cette parole de Dieu, par cette sixième parole du décalogue, à prendre soin de sa santé. Et vous savez, bien souvent, ce n'est pas le cas. Il y a un néoplatonisme qui s'était répandu dans l'Église au Moyen-Âge et qui nous touche encore. Si vous voulez, ce platonisme consiste à dire en gros, nous sommes des gens spirituels, nous sommes des hommes spirituels, eh bien, nous devons prendre soin de notre âme, nous exercer à la piété. Mais si saint Paul dit que l'exercice de la piété est fondamental, il dit quand même que l'exercice physique est à sa place. C'est peu de choses. Mieux vaut une piété solide et fidèle à Dieu plutôt qu'un des exercices physiques, bien sûr. C'est peu de choses, mais l'exercice physique a sa place. Et le maintien de notre santé est une obéissance. Alors, il y a d'abord tout ce qui relève de notre recherche du maintien de notre santé. Mener une vie équilibrée. Ne pas porter atteinte à notre santé par l'abus du tabac, de l'alcool, par la goinfrerie, par l'inverse de la goinfrerie, qui serait ne pas savoir... Il y a une diététique. C'est là où les commandements concernant la diététique peuvent nous aider, parce que nous ne sommes pas tenus à observer les lois diététiques qui sont des lois rituelles et culturelles dans l'Ancien Testament. Et, par exemple, les animaux purs, les animaux impurs, je vous l'ai déjà dit, tout cela a été aboli dans la nouvelle disposition, parce que c'est en rapport avec le culturel et le rituel. Mais dans la diététique de l'Ancien Testament, il y a des conseils qui sont excellents. Alors, nous ne sommes pas tenus d'observer les règles diététiques de la Torah, mais... Lorsque ces règles de la Torah vont dans le sens d'une meilleure santé, eh bien alors, épousons-les, pratiquons-les. Mais nous devons prendre soin de... Alors ça, c'est plus le particulier en face de sa santé, mais tout ce qui est en rapport avec le médical et le paramédical. J'ai eu le privilège d'être pasteur dans une communauté à Paris où nous avions... 60 médecins, et où il y avait évidemment tout le paramédical à côté, c'est-à-dire un certain nombre de kinésithérapeutes, un certain nombre d'infirmières, un certain nombre, etc. Et nous nous sommes bientôt rendus compte dans notre conseil d'église qu'il fallait promouvoir la fidélité de ce corps médical et paramédical à la parole de Dieu. Et alors, comme eux ont des compétences que les pasteurs n'avaient pas, ce sont des médecins eux-mêmes qui ont pris en main l'organisation d'études bibliques pour voir comment la parole de Dieu pouvait aider, éclairer et normer ceux qui pratiquent un métier de médecin ou un métier paramédical. Et alors là, je crois que c'est bon. Le pasteur n'a pas à tout faire, il n'est pas compétent pour bien juger de ces choses, mais... Si dans une paroisse, on a un ou deux médecins, si on a quelques personnes appartenant au monde médical et paramédical, il faut que nous aidions cela, que nous poussions ça. Parce qu'il y a une chose qui m'a frappé, c'est que des médecins, même chrétiens, finalement, pour des raisons soi-disant humanitaires, pour des raisons soi-disant de charité, d'amour... finissez par admettre l'avortement dans tel ou tel cas, finissez par admettre l'euthanasie dans tel ou tel cas, finissez finalement par tricher avec le clair enseignement de la parole de Dieu. Et finalement, on tombait dans quelque chose de terrible, un médecin qui se fait complice d'un meurtre. Et tout cela par ignorance de l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, autre problème... Le problème du suicide. Nous sommes dans une époque où les suicides se sont multipliés. Vous savez que l'un des pays où le suicide s'est plus multiplié, c'est la Suède. C'est en liaison d'ailleurs avec toute une désorganisation de la sexualité en général, de la famille. Il y a quelque chose de terrible là. Mais en France, nous avons beaucoup de suicidaires, c'est-à-dire de gens qui... plus ou moins éprouvent la tentation de se suicider. J'ignore ce qui se passe au Québec, mais il est sûr que le suicide est un meurtre. C'est le meurtre de soi-même. C'est un meurtre. Au lieu d'être le meurtre d'un autre, c'est le meurtre de soi. Mais le suicide est visé aussi par la sixième parole du Décalogue. Vous avez aussi la question de la non-assistance à une personne injustement agressé. Et là, ça pose un problème qui est très grave. voilà un passant qui est assailli. Vous savez que dans les grandes villes, en tout cas en France, ça devient dangereux de se promener le soir. Moi, je me souviens du temps de ma jeunesse, on pouvait se promener à Paris à minuit, il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, ben, je ne me risquerai pas facilement dans une rue de Paris après 9h du soir. Je ne sais pas ce qu'il en est à Montréal, mais y a un problème. Or, je suis chrétien, une personne est agressée. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je crois que, comme chrétien, nous ne devons pas devenir complices du meurtrier en puissance en nous abstenant. Bon, mais quelquefois, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que vous vous trouvez quelquefois devant quelqu'un qui est armé, ou devant quelqu'un qui est apparemment, visiblement, beaucoup plus fort que vous. Donc, vous voyez, y a là une question qui se pose pour le chrétien, de même que la question de la légitime défense. Alors, sur la question de la légitime défense, je voulais vous dire une chose que j'ai racontée à l'un d'entre vous. C'était mon professeur, d'ailleurs, de dogmatique, Auguste Le Cerf, qui était un chrétien très fervent. Lui-même s'était converti. C'est très curieux, Auguste Le Cerf était un fils de communards. Les communards, ce sont les Français qui avaient pris part à la Commune en 1970. C'était un mouvement révolutionnaire qui avait décrété Paris ville libre, etc. Et tout. Et alors, les communards, ensuite, avaient été bannis et ils avaient été obligés de se réfugier à l'étranger. Et alors, le père de Le Cerf s'était réfugié à Londres parce qu'il avait été communard. C'était aussi un communiste, un communard et en plus un communiste. Et il s'était réfugié à Londres. Et alors, un jour, Auguste Le Cerf était enfant, il avait peut-être 12 ou 13 ans, lorsque, en passant dans une rue de Londres, il avait entendu du mouvement dans une église, il avait entrouvert la porte, et au moment où il avait entrouvert la porte, il avait entendu le pasteur qui exhortait les enfants et qui disait, lui-même était un enfant, enfin il n'était pas parmi les enfants de l'école biblique, et qui disait, et peut-être y a-t-il en ce moment l'un d'entre vous qui pour la première fois de sa vie entend l'appel de Dieu. Et alors Le Cerf, ça l'avait touché, cette parole. Il ne s'était pas converti, mais ça l'avait touché. Il s'en est toujours souvenu. Et alors, beaucoup plus tard, un jour, sur les quais, il avait trouvé, sur les quais de Paris, où il y avait des bouquinistes le long de la Seine, il avait découvert une Bible. Et il avait commencé à lire cette Bible, et c'est la lecture de la Bible qui avait été le moyen dont Dieu s'est servi pour sa conversion. Donc, vous voyez, Le Cerf, mon professeur de dogmatique, était un homme qui s'était converti de cette manière, alors qu'il était fils de communard et d'un milieu, donc, pas du tout croyant. Et alors, Le Cerf, au sujet de la légitime défense, nous disait, voilà, alors, il nous donnait cet exemple. Si je suis en Afrique, là, il parle d'un moment, c'était dans sa jeunesse, c'était la fin du 19e siècle, c'était un temps où il y avait encore en Afrique, d'ailleurs, des territoires qui n'avaient jamais été traversés par un blanc. Si je suis en Afrique, et puis que l'on m'attaque, hein, il répondait, ben je me défends. Parce qu'à ce moment-là, on m'attaque sans que j'attaque personne, j'ai le droit de légitime défense. Mais il dit, je suis en Afrique, dans une tribu païenne, et j'annonce l'Évangile. Et parce que j'annonce l'Évangile, on veut me tuer, alors dans ce cas-là, je me laisse tuer. Vous voyez, je vous donne l'exemple pour vous montrer la différence qu'il y a. Dans un cas, on n'est pas attaqué comme chrétien. Les gens ne savent même pas ce que vous faites. Vous êtes attaqué par un malandrin. Ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe où. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de vous défendre. Et même Le Cerf poussait les choses. Il disait, vous avez le droit de vous défendre pour empêcher un meurtre. Vous empêchez qu'on vous tue. Vous empêchez quelqu'un de devenir un meurtrier. Voilà. Alors vous avez le droit de vous défendre. Sinon, si vous ne vous défendez pas, vous êtes complice d'un meurtre. Mais par contre, si l'on veut vous tuer parce que vous êtes chrétien, alors là, vous devez vous laisser tuer parce qu'un chrétien ne doit pas, en tant que tel, se défendre, il doit accepter de mourir pour le Christ, il devient martyr du Christ, c'est-à-dire témoin du Christ. Vous savez que martyr, en grec, signifie témoin, vous devez témoin du Christ jusqu'à la mort. Alors je vous dis ça, donc, en passant, c'est d'ailleurs ma position. Je crois tout à fait que la légitime défense est autorisée. Attention, quand je dis légitime défense, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de tuer quelqu'un qui est en train de vous voler quelque chose. Hein? Bon, il faut faire attention. Mais ça veut dire qu'on a le droit de se défendre lorsque... de se défendre par la force et au besoin en culbutant son adversaire si c'est quelqu'un qui menace votre vie. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous savez, vous avez des gens en France, ils prennent un fusil parce qu'on est en train dans la cour de leur voler leur voiture automobile ou de leur voler leur bicyclette. Donc vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un parce qu'il veut vous voler. Ça, c'est pas la légitime défense. Vous voyez, il faut faire attention. Actuellement, il y a des gens qui, au nom de la légitime défense, sont prêts à tuer pour un vol. Un vol, ça c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, la loi de justice. On n'a pas le droit d'exécuter un voleur. Hein? Parce qu'un voleur commet le péché de vol, ou même le crime de vol si vous voulez, mais je dirais, le vol n'a jamais dans le droit biblique mérité une exécution. Donc, vous voyez, il faut faire... Alors, vous voyez, vous avez dans la Sainte Écriture des données qui vous permettent d'y voir clair. Ensuite, une vérification. Il n'y a dans la Bible la peine de mort que pour un certain nombre de crimes ou de péchés, de péchés-crimes, disons, puisque c'est à la fois, c'est un crime par rapport au droit... Et c'est un péché par rapport à la morale. Hein? Par rapport à la loi de Dieu, vous avez des choses qui sont à la fois crime et péché. Hein? Bon, alors, il faut bien voir quelles sont les questions. Alors, je voudrais simplement faire un petit alinéa, et après, je laisserai le temps pour qu'il y ait des questions, au sujet de la peine de mort. Je l'ai déjà dit, la punition capitale est toujours exécutée par Dieu, selon le droit biblique, soit en certains cas directement, mais ça c'est le secret de Dieu. Il arrive, la Bible nous le rapporte, que Dieu frappe de mort directement un criminel. C'est rare, mais ça arrive. Ah, il peut à la limite faire mourir d'une crise cardiaque, un assassin, il peut frapper de mort directement quelqu'un. Ou bien alors, je l'ai déjà dit, par le ministère des magistrats. Alors le problème est aigu à l'heure actuelle, puisque vous savez que selon la religion humaniste, qui tend d'ailleurs de plus en plus à protéger les coupables et à punir les innocents, on arrive à des choses inouïes à l'heure actuelle. Là, je ne le développerai pas. Ceux d'entre vous qui liront le livre de Roche Denis sur The Institutes of Biblical Law se rendront compte des choses effarantes auxquelles on arrive. On a dans certains pays une législation, dans certains États des États-Unis, on a une législation qui protège à fond le criminel au nom des droits de l'homme et qui, au contraire, va mettre en danger les innocents. Alors que selon Romains 13, le rôle du magistrat, c'est de frapper le coupable et de protéger l'innocent, on arrive à un système où c'est le coupable qui est protégé et l'innocent qui est menacé. Il faut faire très attention au développement dans la criminologie actuelle. Hein. Vous avez un problème aigu. Dans certains États, on va arriver à des choses terribles. Parce que, à l'heure actuelle, et puis alors même, quelquefois très inhumaine, même pour un coupable. Par exemple, il y a un système dans certains États américains où d'appel en appel, on peut attendre pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 11 ans, une exécution capitale. Vous avez quelqu'un qui peut être condamné à mort, et qui va attendre son exécution et subir, si je veux dire, le supplice de l'attente de l'exécution pendant des années. Or, dans la Bible... Dans le droit biblique, vous n'avez rien de semblable. Et alors, c'est là où l'on voit un espèce de renversement. Saint Paul dit que le magistrat est liturge de Dieu et a le droit de glaive pour punir les malfaiteurs, protéger les gens de bien. Eh bien, je le répète, on arrive dans certaines législations à protéger les meurtriers, les coupables, et à mettre en danger les gens de bien. À la limite, d'ailleurs, ça fait partie de certaines données psychologiques modernes. Et là, je suis obligé quand même de vous en dire un mot à propos même de cette parole de Dieu. On arrive à des choses incroyables. Quelqu'un qui commet un crime, quel que soit ce crime, un malfaiteur. Et alors, Jay Adams, qui est qui était professeur à Westminster et qui s'occupe surtout de ce que vous appelez généralement la cure d'armes et que j'appelle la doutésie, mais ça c'est une autre histoire, eh bien Jay Adams, dont je vous recommande les livres, il a un livre, je sais que Gilles l'a dans sa bibliothèque parce que je l'y ai vu, qui s'appelle Competent to Counsel, et vous pouvez lire Jay Adams au point de vue pastoral, il pourra vous donner beaucoup d'idées. Et d'autre part, il dirige une revue qui paraît plusieurs fois par an, qui est une revue de théologie pastorale et qui peut vous aider dans votre ministère. Évidemment, c'est une revue en anglais, mais enfin, c'est une revue, je sais que notre faculté y est abonnée, et je pense qu'il faut que vous demandiez à votre faculté ici de s'y abonner. Jay Adams est un homme Or, Jay Adams, justement, montre combien des données psychologiques modernes renversent complètement les situations et en même temps compliquent les situations. Parce qu'au fond, ce qui est accusé, ce sont les innocents. Quand un meurtre est commis, c'est pas la faute du meurtrier, c'est la faute des innocents. Et quelqu'un qui ne commet pas de meurtre devient quelqu'un, aux yeux de certains psychologues, d'extrêmement dangereux. À la limite, on se demande si on va pas arriver à demander la peine de mort pour ceux qui ne commettent pas de meurtre. J'ai l'air de blaguer, mais je vous assure, lisez un certain nombre d'exemples de cas qui se sont produits aux États-Unis et où la juridiction américaine a joué, que vous trouverez dans le volume de Rush Dooney, vous serez assis. Moi, je dirais, j'étais soufflé. Or, je me suis aperçu depuis, parce que j'étais innocent à l'époque, je me suis aperçu depuis qu'en France, on commençait à emboîter le pas. Et qu'on commence à renverser complètement les choses. Alors je dirais, le droit divin, le droit révélé est d'aplomb, tel que ça, au contraire, c'est absolument à l'envers. Donc, prenons l'exemple, évidemment, Rush Dooney le dit avec un peu d'humour dans son bouquin. Prenez par exemple le premier péché. Vous savez, la faute du péché, ce qui provoque le péché, c'est l'environnement. Alors, Rush Dooney dit, prenez le cas du premier péché. C'est pas la faute d'Adam. C'est pas la faute d'Ève. C'est pas la faute du serpent. C'est la faute de la pomme. Voilà. Et au fond, si vous voulez, on arrive à ça. S'il n'y avait pas eu cette pomme, rien ne serait arrivé. C'est la faute de la pomme. Le serpent n'y est pour rien, Ève n'y est pour rien, Adam n'y est pour rien, les coupables n'y sont pour rien. C'est cette pauvre pomme innocente qui est coupable. Oui, alors, c'est évidemment quand Rush Dooney dit ça, je cite ça là, il le raconte bien mieux que je vous le dis, mais il raconte ça dans son livre. Mais quand on réfléchit, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un renversement par lequel on absout de toute responsabilité le coupable. On déresponsabilise le coupable. Et on culpabilise l'innocent. D'ailleurs, vous savez que depuis longtemps, un certain nombre de gens ont rejeté la faute sur Dieu, parce que celui qui environne tout, celui qui enveloppe tout, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la faute, c'est lui qui est coupable du péché, et c'est lui qui a créé la pomme et qui a établi la pomme. D'ailleurs, vous savez que l'histoire de la pomme, ça vient d'un contresens. C'est parce que en latin, le mot « poma » peut désigner n'importe quel fruit. Et alors, dans les anciennes versions de la Bible, lorsqu'il était question du fruit, on disait « poma » dans les textes latins. Mais « poma » n'a jamais voulu dire « pomme » là-dedans. Ça veut dire « fruit », ça le traduit par « fruit ». Hein? Mais comme ça, alors on a parlé de la pomme, et c'est devenu courant, en tout cas en français, on parle de la pomme d'Adam, d'ailleurs je ne sais pas en français, vous dites aussi la pomme d'Adam, on parle toujours de la pomme, alors que évidemment il n'y a pas du tout de pomme dans le récit, d'autant plus qu'il s'agit de l'arbre de la science du bien et du mal, et que ce n'est pas un arbre fruitier ordinaire. Bon. Alors, je m'arrête là. Et nous avons donc un quart d'heure, là. Et s'il y a une question, je m'efforcerai d'y répondre. Alors, il y a deux mains qui se lèvent. Alors, celui des trois qui se lèvent. Alors, vous êtes le premier, allez-y.
Au sujet, vous avez parlé au sujet de l'euthanasie. De qu'est-ce qui arrive dans la question des médicaments là, pour soulager la douleur? Parce que si on force la dose du médicament, on abrège très rapidement la vie de la personne. Et puis,
oui. Alors là, je crois quand même que ce qui est important, je dirais, c'est que le médecin et les membres de la famille aient une conscience bien formée et reformée si c'est nécessaire. Parce que c'est très difficile d'établir dans le dire ou dans l'écrit où se trouve la frontière, voyez-vous, qui sépare la mise à mort, n'est-ce pas, et la non-prolongation artificielle de la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les journaux en France, peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé au Canada, de la mort du général Franco. Vous savez que pendant des semaines, toute une bande de médecins espagnols se sont évertués pour maintenir en vie, soi-disant en vie, Franco. Bon, je dis ça parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse. C'est incroyable. La médecine peut avoir à son usage une quantité de piqûres, de machines pour la respiration artificielle, pour tout. Bon, vous pouvez finalement, on peut donner les apparences de la vie à un mort, à la limite. Vous pourriez arriver, à la limite, on pourrait faire un appareil pour faire battre le cœur, un appareil pour faire respirer, un appareil. Bon, en réalité, on a affaire à un mort. Mais on fait durer une apparence de vie. Alors, vous comprenez? C'est impossible, et surtout à un profane comme moi, je ne suis pas compétent en médecine, pour voir où c'est la limite. C'est pour ça que je dis qu'il faut se fier, malgré tout, à la conscience du médecin. Je vais vous donner un exemple qui, quand même, me montre qu'il ne faut pas aller trop vite. J'ai eu une de mes paroissiennes très âgée, elle avait plus de 80 ans, qui s'appelait Madame Sigler. Je l'aimais beaucoup parce que c'était une chrétienne fervente, une femme de prière, une femme... Vraiment, sa vie tout entière était un témoignage. Bon, voilà qu'un jour, elle est tombée dans le coma. Son coma a duré des semaines. Et on la maintenait en vie, justement, elle avait... l'alimentation artificielle dans le bras, elle avait on l'aidait pour la respiration, bref, elle était au milieu d'un, il y avait, quand on entrait chez elle, il y avait un tas de tuyaux et tout ça, bon, c'était bon, chez elle, je dis dans sa chambre parce qu'elle était en fait à l'hôpital. Et comme elle était dans le coma, un beau jour le médecin, qui était un homme d'ailleurs fort respectable, a réuni les enfants qui étaient des gens qui avaient déjà la cinquantaine, hein, c'était, puisqu'elle avait plus de 80 ans, et puis moi, parce que je la visitais, ou j'essayais de la visiter assez fidèlement, et puis voilà, le médecin me dit, écoutez, vraiment, je me demande si nous devons continuer, ça. Et c'est très difficile, c'est pour vous montrer combien c'est difficile de décider, parce que ni ce médecin, ni la famille, et encore moins peut-être moi-même, nous avions un désir quelconque de mettre fin au jour de Madame Sigler. Mais de notre côté, on se disait à la limite, si à cause d'un tas d'appareils on maintient en vie, bon, vous voyez le problème. Hein. Finalement, le médecin lui a tranché, parce que c'est quand même la responsabilité du médecin au bout du compte. Hein. Il peut avoir les conseils ou les avis de la famille, mais finalement, le médecin a sa responsabilité de médecin. Il a dit, bien, demain matin, on arrêtera ce coma interminable. À ce moment-là, avec Jean Sigler, qui était le fils aîné, nous sommes rentrés tous les deux dans la chambre de Mme Sigler. Et c'était sidérant. Au moment où nous sommes entrés, Mme Sigler a ouvert les yeux. Bon. Le lendemain, Elle sortait du coma. 8 jours après, elle rentrait chez elle, et elle est morte de sa bonne mort, si je puis dire, 2 ans après. Alors, je vous donne cet exemple pour vous montrer combien la question est délicate. Hein? Dieu a aidé dans cette affaire, puisque le lendemain, on devait arrêter. Et que le soir, donc la veille du lendemain, le soir, elle a ouvert les yeux. Bon, alors là, bon, ça allait, il n'était plus question, puisqu'elle sortait du coma. Mais c'est pour vous dire que c'est pas facile. Tandis que dans le cas de Franco, alors, les choses étaient bien plus nettes, parce que là, vraiment, on y était allé avec tous les moyens artificiels possibles, vous comprenez, et on savait que c'était fini. Mais c'est pour ça que la question de l'euthanasie n'est pas une question qu'on peut facilement trancher, voyez-vous. On ne peut pas facilement la trancher. Mais, en tout cas, il faut dire, tant, on dit en français, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein? Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle la vie. Parce que le coma, ce peut être effectivement encore la vie. Mais le coma, ce peut être aussi une mort. Il y a le cas, je crois que c'est aux États-Unis, d'une jeune fille qui est maintenue comme ça dans le coma depuis je ne sais pas combien d'années. Hein? Quoi ? Oui, depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Alors là, vraiment, on se demande, vous voyez. C'est pour vous montrer la question de l'euthanasie. Nous sommes contre l'euthanasie, comme chrétiens, nous devons être contre l'euthanasie. Mais, d'un autre côté, où va se trouver et où va se situer la limite? C'est pour ça qu'exprès, je vous ai cité le cas de Mme Sigler.
Quand vous avez parlé de ce principe-là, qu'une exécution capitale ou d'aller à la guerre, quand c'était fait sur l'ordre des magistrats, des autorités, le juste de la vie, le droit de l'être, c'était quelque chose où Dieu... se sert de ça, que c'est un droit, que c'est quelque chose.
Oui, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est saint Paul.
D'accord. Mais ce que je me demande, pour nous qui sommes chrétiens, quand on fait face à ce principe-là, à quel point est-ce que les magistrats, quand ils font une exécution, peut-être pas nos magistrats dans des pays dits plus civilisés, mais quand on parle d'Afrique, ou de pays communistes, ou de pays musulmans, ce sont quand même des magistrats, des autorités. Alors, qui est l'autorité, qui est le magistrat? À quel point ces gens-là sont réellement... sous la direction de Dieu ou utilisé par Dieu pour les guerres.
Non, mais vous avez... j'appellerai, c'est une excellente question. Je crois que vous faites bien de la poser, parce qu'en effet, il faut... Dans Romains 13, nous n'avons pas une affirmation descriptive, mais nous avons une affirmation normative. Je m'explique. Paul, là... ne décrit pas comment les choses se passent. Mais il nous donne la norme de ce qui doit se passer. Et en effet, ça pose une question. Comment s'appeler, là, nos amis qui connaissent un peu les questions d'Afrique mieux que moi pourront me répondre, comment s'appeler ce dictateur incroyable? Amin Dada. C'était une espèce de fou, d'ailleurs, ce type-là. Bon, mais vous avez d'ailleurs à Haïti... Vous aviez le fameux Duvalier, le père, là, avec ses tontons macoutes, là, et tout ça. Vous comprenez, il faut bien voir. On a affaire, quelquefois, à des gens qui sont vraiment des usurpateurs du pouvoir et qui agissent en tant que magistrats en dehors de toute loi. Bon. Or, Paul, dans Romains 13, n'envisage pas ce cas-là. Il envisage le cas, je dirais, d'un État normal, c'est-à-dire d'un État où, quand même, il y a des règles de justice selon le droit, pas un innocent ne doit pas être condamné, un coupable doit être condamné, je veux dire, il parle, c'est normatif. Autrement dit, ce n'est pas descriptif. On ne peut pas appliquer ce que dit saint Paul à toute situation. Par exemple, je pense à la situation de la France pendant la Terreur, hein, où on se guillotinait à qui mieux, parce que la plupart des gens qui ont ordonné des guillotinades ont été eux-mêmes guillotinés. Le grand meneur de la Terreur, c'était Robespierre. Robespierre, il y est passé comme les copains. Ça a été effroyable. Alors on peut dire à ce moment-là, mais où est la justice? Oui, la justice. Vous, il suffisait qu'un voisin mal intentionné vous accuse d'être un suppôt du roi pour que, immédiatement, vous soyez conduit à la guillotine. Le jugement était une mascarade. Alors, ce que saint Paul fait là, il fait allusion à des magistrats normaux qui jugent selon la justice et qui condamnent des coupables. Autrement dit, nous avons affaire là à un texte normatif qui donne, si je puis dire, une règle, une norme. Mais il ne faut pas prendre ce texte comme décrivant, ipso facto, n'importe quel zigoto comme Amin Dada ou comme Robespierre, comme disant, ben voilà, parce que là, on est dans des cas, c'est presque des cas de folie, n'est-ce pas? On est dans des cas de folie. Robespierre, c'était une folie froide, Amin Dada, c'était une folie chaude, mais dans un cas comme dans l'autre, on est en dehors de tout respect d'un droit quelconque. Moi, on est... Alors, c'est... Non, mais vous faites bien d'avoir posé cette question. Il ne faut pas dire que là, nous avons la description que n'importe quel magistrat, dans n'importe quelle condition, agit comme serviteur de Dieu quand il fait n'importe quoi. Non. Ce que Paul veut dire, il dit, quand un magistrat remplit la justice et condamne un malfaiteur, il agit au nom de la vengeance de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qui est indiqué dans le texte, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain que l'autorité porte l'épée, étant au service de Dieu, il y a dans le texte étant liturge de Dieu, pour sa vengeance et sa colère contre celui qui pratique le mal. Donc, vous voyez, il y a quand même suffisamment de précision pour qu'on élimine des cas comme ceux que vous évoquez.
Ça m'étend beaucoup là-dessus, mais sur l'aspect de la guerre aussi, que vous avez touché, qui est quand même là, quand une autorité commande à la guerre. Moi, je crois qu'il n'y a aucune raison valable de conduire un peuple à la guerre.
Ouais.
Et à ce moment-là, de dire que ce n'est pas des meurtres que ces gens-là vont faire.
Non. Là, vous avez dit une parole trop rapide quand vous avez dit dans n'importe quel cas. Bon, je prends un exemple que je connais bien. Vous savez que pendant la dernière guerre en Europe, la Suisse, qui était exactement placée entre l'Allemagne et l'Italie, pour ne pas parler de la France, a été, plusieurs reprises, Hitler a envisagé de conquérir la Suisse, de passer par la Suisse, de traverser la Suisse. Or, la Suisse est un pays extrêmement pacifique, il n'y a peut-être pas plus pacifique que la Suisse, mais en même temps extrêmement solide au point de vue militaire. C'est un petit pays dont l'armée est à certains égards redoutable. Et Hitler savait très bien que s'il pénétrait en Suisse, il finirait peut-être par l'emporter, parce que son armée était... Mais il aurait des pertes terribles, parce que les Suisses se défendraient et ne se laisseraient pas faire. Et finalement, Hitler ne l'a pas fait, parce qu'il a su que ça lui coûtait très chaud. Or, moi, j'estime que, si vous voulez, l'armée suisse, au service de l'État suisse, justement, comme un pays n'envisageant aucune conquête, aucune offensive, mais c'était un pays qui était bien décidé à se donner à fond dans une guerre défensive. Eh bien, je crois qu'une guerre défensive, dans un cas comme celui que je cite, est parfaitement légitime. Et j'estime que ce serait une erreur de dire... Parce qu'au contraire, si, sous le prétexte qu'il ne faut jamais faire la guerre, si les Suisses avaient laissé faire Hitler, alors là, ça pouvait changer beaucoup de choses. Hein. Parce que finalement, le fait même de la Suisse a été une plateforme pour les autres États, comme l'Angleterre et les États-Unis, parce que c'était une plateforme neutre, n'est-ce pas, où il a pu y avoir, par la Croix-Rouge internationale et par toutes choses, des tas de choses auprès des prisonniers. Je vous citais le livre « L'ordre de Dieu ». Or, l'ordre de Dieu a pu être distribué dans les camps de prisonniers par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, mais qui avait son siège à Genève. Et si bien que, vous voyez, tout se tient. Je crois qu'il y a des cas où un pays a non seulement le droit, mais le devoir de défendre la liberté de ses citoyens. Je crois qu'une guerre de conquête, une guerre d'agression, un chrétien ne doit pas l'accepter, et peut même, s'il le veut, avoir une juste objection de conscience. Mais je crois que la force armée peut être aussi un moyen de paix. Et d'ailleurs, c'est à cause de la valeur de son armée, la décision de son armée, que la Suisse a maintenu le pays, la Suisse, hors de la guerre. Et finalement, on peut presque dire à la limite que c'est grâce à son armée et à sa volonté guerrière que la Suisse a eu la paix. Oui, donc on ne peut pas généraliser, il faut trop vite. Hein. Il y a des cas où une guerre est légitime. Je ne parle pas évidemment des guerres d'Israël, ça c'est spécial, dans la mesure où la guerre d'Israël était ordonnée par Dieu, qui a voulu installer son peuple sur cette terre, avait promis à Abraham que c'était sur cette terre que croîtrait son peuple, et que sur cette terre et dans ce peuple naîtrait celui qui serait une bénédiction pour toutes les nations de la terre, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous aviez levé la main là-bas.
Et dans la même suite de questions, lorsqu'un gouvernement ordonne la guerre, que ce soit, mettons, dans la défense contre l'énergie qui a eu lieu, et la mise en commun de toutes les forces contre cette force-là, ou dans n'importe quelle présentation de guerre, chaque pays présente la chose sous un air de justice. Le pays qui entre en guerre s'arrange pour présenter ce qui est dit sous un air de justice. Quand on lit des choses du côté communiste, ils ont tout à fait raison et ils n'ont aucun tort. Et lorsqu'on lit des choses du côté américain, les communistes sont à tuer ou à faire n'importe quoi s'ils font telle ou telle chose, et les Américains sont complètement dans leurs droits. Et la question qui me vient, c'est celle de la juste guerre.
Ah oui. Alors là, je vous recommande simplement, je dirais pour votre réflexion, hein, je vous serais peut-être pas du tout convaincu, mais la Revue Réformée a publié son dernier numéro. C'est un article du professeur d'éthique Daouma de la faculté de Kampen aux Pays-Bas, une traduction française, qui est tout entier consacré, c'est un numéro tout entier consacré, il y a que l'article de Douma, c'est presque une brochure de ce professeur Douma sur la question de la guerre, vue d'un point de vue, j'allais dire, biblique, enfin, je ne dirais pas que ça vous convaincra, n'est-ce pas? Vous savez, entre chrétiens, ce qui est important, c'est que nous ayons un vrai désir d'être fidèles à la parole de Dieu. Maintenant, il se peut que sur une question ou sur une autre, même avec notre volonté réciproque d'être fidèle à la parole de Dieu, nous divergions sur un point ou sur un autre. Hein? Vous le savez, je l'ai toujours dit, vous êtes baptiste dans cette faculté, moi je ne suis pas baptiste. Bon, mais je vous considère comme des frères, et j'espère que vous aussi, vous me considérez comme un frère. Bon, nous avons les uns et les autres le désir d'être fidèles à la parole de Dieu. Bon, ben il se trouve que sur le point du baptême, nous différons. Bon, prenez le cas aussi de la participation ou non, ou de la légitimité ou non de la guerre, nous pouvons aussi avoir peut-être un avis différent. Bon, l'important, c'est que nous recherchions toujours la fidélité à la parole de Dieu. Et le jour où nous sommes convaincus que la parole de Dieu... Quelqu'un a parlé l'autre jour, c'est un de nos frères haïtiens qui a fait une prédication sur la conviction. Je ne me souviens plus qui c'est. C'est vous. C'est la conviction. N'est-ce pas ? Il y a la différence qu'il avait soulignée entre opinion et conviction. Mais quelquefois, il se peut qu'une chose que nous croyons une conviction se révèle ensuite d'une méditation plus approfondie de la parole de Dieu comme une opinion. Hein. Mais nous devons toujours agir selon la conviction. Et nous ne pouvons agir, sinon c'est péché, nous dit l'Écriture. Ben, il faut que nous ayons une conviction. Mais je dirais, heureusement, nous pouvons sur un point ou sur un autre... ne cesser de nous poser certaines questions, précisément peut-être parce qu'un frère chrétien a une conviction différente de la nôtre. Bon, alors, ça nous amène sur un point ou sur un autre à nous dire, ben, on ne sait pas, peut-être que je n'ai pas assez médité l'Écriture. Parce que deux chrétiens peuvent différer sur un point, mais avoir tous les deux tort aussi. Et que la vraie conviction, c'est peut-être une troisième position, vous voyez, que ni l'un ni l'autre n'a. Je veux dire, comme chrétien, l'important... c'est que nous ayons le désir d'être convaincus par la parole de Dieu et que nous sommes prêts à réformer nos opinions pour avoir toujours plus des convictions selon la parole de Dieu. Et alors c'est là ce qui nous fait frère, parce que nous savons que même si nous différons sur un point ou sur un autre, nous avons les uns comme les autres le désir de nous ranger à la parole de Dieu. Alors peut-être que nous interprétons mal, l'un interprète mal la parole de Dieu et l'autre bien, peut-être que les deux interprètent mal la parole de Dieu, mais nous cherchons toujours plus et toujours mieux à suivre la parole de Dieu. Et c'est ça qui est essentiel, parce que finalement, c'est la parole de Dieu seule qui doit être reine et maîtresse sur notre vie. Hein. Voilà le...
Sur la
totale. Eh oui.